Alors, comment ça va, les enfants? Ça va bien? Oui? Vous savez, vous vous souvenez de la dernière fois que vous êtes retrouvés ici sur le tapis rouge? C'était quand? C'était à Noël. Alors, je peux vous poser une petite question là? Qu'est-ce que vous préférez, Noël ou Pâques? Vous préférez Noël ou Pâques? Soyez honnêtes! Les deux? Non, mais je vous demande, lequel des deux vous préférez? Si on devait en enlever un, qu'est-ce que vous enlevez, Noël ou Pâques?
Moi, je voudrais un Pâques parce qu'on a des cadeaux plus des bonbons.
Ah, voilà. Elle veut tout. Elle a compris qu'à Noël, il y a des cadeaux. Et puis à Pâques, il y a des chocolats, c'est ça?
Oui.
Donc, tu veux rien rater. Donc, c'est pour ça que tu es revenu. C'est bien ça? Donc, peu importe si c'est Noël ou Pâques, vous venez toujours. Hein? On pourrait inventer une autre fête. Ça serait bien encore. Parce que c'est vrai, entre Pâques et Noël, il se passe beaucoup de temps. Hein? Si on pouvait mettre au mois de juillet encore une autre fête, où vous viendriez avec d'autres cadeaux, ça serait bien, non? On va en inventer une? Ah. Alors, qu'est-ce que vous aimez beaucoup à Noël, alors? Qu'est-ce que vous préférez à Noël? Les cadeaux. Vous savez que Noël, c'est probablement une fête plus populaire que Pâques, parce que ça va au-delà même du monde chrétien, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens, mais ils vont se réunir en famille. Le jour de Noël, ils vont bien manger, ils vont partager les cadeaux. Oui. Pâques, c'est peut-être plus une fête réservée aux chrétiens, on peut dire. Alors, il y a la Pâques chrétienne, et puis il y a la Pâques juive aussi. Et la Pâques juive, cette année, et la Pâques chrétienne tombent en même temps. Mais certainement que la fête de Noël a plus d'intérêt, parce que c'est comme une très belle histoire. Vous aimez bien les histoires, j'imagine, et les belles histoires. Et là, avec Noël, vous avez une belle histoire. Vous avez la naissance d'un enfant. C'est bien, hein, quand un enfant naît. Quand vous avez eu un petit frère, une petite sœur. Il s'appelle Jésus, cet enfant, c'est ça. Révisé. Et... Mais il y aura d'autres questions plus difficiles. Hein. Et à côté de cet enfant, il y a aussi des anges. C'est bien une histoire avec des anges. Hein? Vous en connaissez des anges? Oui, comment ils s'appellent?
L'ange Gabriel.
L'ange Gabriel,
oui.
Lucifer, oui. Il a mal tourné celui-là. Hein? Je préfère pas qu'il vienne aujourd'hui. Hein? On va lui dire de rester à la porte, tu crois? Oui. Histoire, ça.
Oui.
Maintenant, Pâques. Pâques, c'est une autre histoire. Personnellement, je vais vous montrer pourquoi. Je trouve qu'elle est encore plus belle que celle de Noël. Et elle est représentée ici, dans ce décor. Vous avez travaillé pour le décor aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait pour le décor de Pâques? Vous avez fait quoi? Des boissons? Ah, des poissons, pardon. Des poissons. Et quoi d'autre? Des vitrailles. Des vitrailles. Où sont les vitrailles? Vous avez fait des vitraux. Des vitres. Des vitrailles, non, des vitraux. Un vitrail, des vitraux. Vous avez fait quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez encore fait dans le décor là qui a... Des moutons. Vous avez fait des moutons, vous avez vu, il y en a beaucoup qui ont disparu, hein. Ils sont partis à la boucherie là pour le gigot de ce midi. Bah, vous rigolez, mais vous avez peut-être mangé du gigot ce midi. Avant, c'était un mouton qui était dans les champs. Hein. Donc, vous avez participé au décor. Vous avez travaillé pour cela. Donc, on voudrait vous féliciter. Tous les grands vont vous applaudir maintenant pour vous féliciter d'avoir travaillé pour le décor de Pâques cette année ici. Et puis, il y a aussi dans le décor, vous avez vu ce qu'il y a dans le décor. Il y a deux pièces dans ce décor qui sont importantes. Vous avez remarqué? Vous avez la croix d'un côté et vous avez une grotte. Qui c'est qui voudrait être spéléologue? Toi, tu voudrais aller dans les cavités de la Terre? Tu veux venir? Tu veux rentrer là, voir? Viens voir si tu peux descendre. Viens voir. Vas-y, rentre. Oh là là! T'as failli tomber là. Il y a une croix et une grotte, mais qui servait de tombeau en fait, un sépulcre. La croix représente la mort, parce que c'est là que les gens sont morts, comme Jésus. Et puis le tombeau représente la résurrection, la vie dans notre histoire. D'accord ? Ce qui fait que nous allons nous arrêter quelques instants sur cette histoire-là. L'histoire de la crucifixion, de la mort de Jésus et l'histoire de la résurrection. Et nous allons essayer de comprendre ce que la Bible nous dit sur ce qui s'est passé ce jour-là, ou ce week-end, puisque ça a commencé le vendredi et ça s'est terminé le dimanche. Le vendredi, c'était quoi le vendredi? Demain? On va remettre les choses en place. Pardon? C'était avant-hier, oui. Voilà, c'est bien. Le vendredi dans l'histoire, c'est le jour de la mort de Jésus. C'est ce jour-là qu'il a été crucifié. Et le dimanche, 3 jours après, vous savez compter? Vendredi, samedi, dimanche. C'est bizarre hein, comment on compte là. Hein? On est le dimanche. Mais si on dit le troisième jour après le vendredi, donc le dimanche, en fait c'est parce que les Juifs, ils comptaient la journée à partir du soir, du coucher du soleil, jusqu'au coucher du soleil. Et on compte donc vendredi le premier jour, samedi le deuxième jour et dimanche le troisième jour. Alors qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Il y a quelqu'un qui a été crucifié. Comment il s'appelle? Jésus. Il a été crucifié parce qu'il avait fait le mal? Non. Alors comment ça se fait qu'il a été crucifié parce qu'il avait fait le mal? C'est bizarre quand même. Si vous avez fait le mal, on peut comprendre que vous êtes crucifié, vous êtes condamné. Mais si vous faites le bien et que le bien, et rien que le bien, oui? Tu es déjà dans la signification de la croix, là, c'est bien. Pour nous délivrer, oui, effectivement. Donc c'est quand même terrible de souffrir ou d'être condamné alors que vous n'avez fait que le bien. Vous n'aimez pas ça, vous. Si vous faites le mal, vous comprenez que papa et maman, ils vous punissent un peu. Mais si vous faites le bien, et si papa et maman vous punissent, vous n'allez pas comprendre. D'accord? Mais c'est ce qui est arrivé à Jésus. Jésus n'a fait que le bien, et malgré tout, la Bible nous dit qu'il a été rejeté, condamné. Il était très populaire pendant 3 ans. Il a fait des miracles, il a annoncé une bonne parole, il a eu beaucoup de disciples autour de lui. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas aimé ce Jésus, ce qu'il annonçait, ce qu'il faisait. Alors qu'il n'avait rien fait, ouais, exactement. C'est quand même bizarre. Donc, on peut dire qu'il est mort d'une mort injuste. Ce n'était pas juste qu'il meure comme ça. Malgré sa bonté, malgré son innocence, il a été crucifié. Alors vous allez me dire, malheureusement, dans l'histoire du monde, ce n'était pas le premier, et ça n'a pas été le dernier non plus. Il y en a encore eu des quantités de gens qui sont morts, qui ont été rejetés, alors qu'ils n'avaient rien fait de mal. Et vous savez que c'est arrivé dans notre pays, dans l'actualité de notre pays, ces derniers jours, avec 2 personnes, peut-être que vous avez vu ces visages à la télévision, et vous avez entendu ces noms. Cette première personne, elle s'appelle Mireille Knoll, c'était une dame âgée de 85 ans, et elle a été, avant, reste sur Mireille Knoll, et elle a été tuée, on peut dire massacrée, par des gens qui n'aiment pas les juifs, parce qu'elle est juive, elle était juive. Donc on peut dire que cette femme, elle est morte d'une mort injuste, d'une mort horrible, elle ne méritait pas de mourir comme ça. Et ça a été, bien sûr, un événement dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, et malheureusement, la même journée où des gens ont tué cette vieille dame chez elle, dans son appartement, eh bien, le même jour, il y a un autre homme qui a tué cet officier de la gendarmerie, que tout le monde a entendu parler, qui s'appelle Arnaud Beltrame, un nom que personne ici ne connaissait, bien évidemment, il y a quelques jours, et puis un nom que tout le monde connaît maintenant, et pas seulement en France, mais même au-delà. Et cet homme, vous le savez, de la même manière que cette femme, il a été tué alors qu'il ne le méritait pas. Il est mort d'une mort injuste. On peut dire comme Jésus, en fait. Comme Jésus. Il est mort d'une mort injuste. Il y a un point commun, bien sûr, et on sait qu'avec la mort d'Arnaud Beltrame, il y a quelque chose de plus qu'avec Mireille Knoll. Puisque dans ce qui s'est passé, vous connaissez l'histoire peut-être, il y a quelqu'un qui avait été pris en otage dans un supermarché par un terroriste. Et cet officier est venu avec ses hommes pour essayer, bien évidemment, de libérer les otages. Et cet officier s'est présenté devant le terroriste en disant « Est-ce que je peux prendre la place de cette femme qui est prise en otage ?» Et le terroriste a accepté. Donc l'officier a été prendre cette place pour libérer cette femme qui était prise en otage. Et cette femme, elle doit la vie à cet acte extraordinaire que cet homme a fait ce jour-là pour lui sauver la vie, parce que peut-être aujourd'hui elle serait morte s'il n'avait pas fait cela. Cet homme, du fait de son acte, est considéré comme un héros. L'État français a rendu hommage à cet homme. On parle d'un hommage national. Et peut-être que vous avez vu des images de cet hommage qui a été rendu ce jour-là à la famille et pour cet homme. Et dans les mots que le président de la République a prononcés pour rendre hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, il y avait ces mots. L'employé pris en otage était de ses innocents. Sa vie comptait pour Arnaud Beltrame, elle comptait même plus que tout, car elle était, comme toute vie, la source de sa vocation de servir. accepté de mourir pour que vivent des innocents. C'est ce qu'il a fait. Tel est le cœur de l'engagement du soldat. Être prêt à donner sa vie parce que rien n'est plus important que la vie d'un concitoyen. Là était cette grandeur qui a sidéré la France. Il a pris une décision qui n'était pas seulement celle du sacrifice, mais celle d'abord de sa fidélité à soi-même, de sa fidélité à ses valeurs, de la fidélité à tout ce qu'il avait toujours été et voulu être, à tout ce qui le tenait. Alors le nom de son assassin, déjà sombrait dans l'oubli, le nom d'Arnaud Beltrame devenait celui de l'héroïsme français, porteur de cet esprit de résistance qui est l'affirmation suprême de ce que nous sommes, de ce pourquoi la France toujours s'est battue, de Jeanne d'Arc au général de Gaulle, son indépendance, sa liberté, son esprit de tolérance et de paix contre les hégémonies, contre les fanatismes et tous les totalitarismes. Arnaud Beltrame rejoint aujourd'hui le cortège valeureux des héros qu'il chérissait. Il va être considéré maintenant en France pendant longtemps comme un héros, celui qui a accepté de sacrifier sa vie. Ça, c'est ce qui nous touche dans cette histoire. Qu'un homme demande de prendre la place d'un otage au risque de perdre sa vie. Lorsqu'il est question de la mort de Jésus, la Bible nous dit qu'il y a quelque chose de semblable qui s'est passé. Ce n'est pas juste un innocent qui a été tué. Si ça avait été cela, croyez-moi que 2000 ans après, on ne parlerait pas de Jésus aujourd'hui. Si on parle de Jésus aujourd'hui, c'est parce que non seulement il a été tué, alors qu'il ne méritait pas, mais c'est parce que la Bible nous dit que quand il a accepté cela, il a accepté de prendre la place de quelqu'un d'autre, comme cet officier supérieur, Arnaud Beltrame. Arnaud Beltrame, lui, a fait ce geste non pas pour mourir, il ne voulait pas mourir, pas plus que vous. Quand il a pris la place de cet otage, il avait comme objectif d'arrêter ce terroriste ou que ce terroriste soit tué. Mais lui, quand il a pris la place de cette femme, il n'y allait pas pour mourir. Il savait qu'il prenait le risque de mourir. Il y avait une possibilité qu'il meure. Mais s'il a été 3 heures face à face avec ce terroriste, en discussion avec lui, c'est parce qu'il essayait de trouver un moyen de le désarmer, de l'arrêter et de l'empêcher de faire ce qu'il voulait faire. Malheureusement, on sait dans cette histoire, c'est qu'il n'a pas pu, il n'a pas réussi. Et c'est lui qui a été tué. Avec Jésus, c'est différent. La Bible nous dit qu'il a pris notre place. Et quand Jésus a pris notre place, la mort pour lui, ce n'était pas une possibilité, c'était une certitude. Et il l'a fait non pas pour quelqu'un qu'il considérait comme innocent, comme cet officier, parce que cet officier, lui, considérait que cette femme, elle ne méritait pas de mourir, elle était comme innocente. Mais quand Jésus a pris notre place sur cette croix, il a pris notre place pour des gens qui étaient ses ennemis. Il est mort pour des gens qui étaient des pécheurs, qui étaient donc des ennemis. Et c'est la raison pour laquelle il est ce héros, beaucoup plus grand encore que tous ceux qui ont donné leur vie pour d'autres personnes dans la résistance ou comme cet homme dont on vient de parler. Il a été beaucoup plus loin. Et c'est pour cette raison que 2000 ans après, on en parle encore aujourd'hui. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Romains, parlant de ce que Jésus a fait, de l'acte de Jésus. Il dit ceci, « Oui, quand nous étions sans force, le Christ est mort pour des gens mauvais. » Pas pour des innocents, pour des gens mauvais. Au moment décidée par Dieu. Déjà, pour une personne juste, on ne serait guère prêt à mourir. Il y en a qui sont prêts à mourir, ça a été le cas de cet homme, cet officier dont on a parlé. Pour une personne qui fait le bien, on aurait peut-être le courage de mourir. Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui sont capables de le faire, mais tout le monde n'est pas capable de le faire. Mais voici, dit Paul, comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous. Et pourtant, nous étions encore pécheurs. Et pourtant, nous n'étions pas si bons que cela. Et même vous, les enfants, vous paraissez ce matin devant moi comme des saints. Mais vous voulez que je demande à vos parents? Je sais que vous n'êtes pas toujours gentils. Soyez honnêtes. Oui? Hein? Oui. Donc, personne n'est parfait ici. Et l'acte de Christ, qui va bien au-delà de tous les autres hommes et femmes qui ont pu donner leur vie pour sauver quelqu'un d'autre, qu'ils considéraient comme innocent, comme ne méritant pas ce qui leur arrivait, Jésus a fait beaucoup plus. Et c'est parce qu'il a fait beaucoup plus que nous sommes ici aujourd'hui. Et la preuve qu'il a fait cela pour nous, la preuve qu'il a fait cette œuvre sur la croix, c'est ce qui nous est raconté au sujet de ce tombeau, en fait. Et on va s'arrêter quelques instants sur la deuxième partie de Pâques, parce que la première, elle commence le vendredi, et la deuxième partie, ou la seconde partie de Pâques, elle se termine le dimanche. L'histoire que je vais vous raconter maintenant, je considère personnellement que c'est la plus belle histoire qu'il y a dans la Bible. Vous savez qu'il y a des histoires dans la Bible. Quelles sont les histoires que vous aimez dans la Bible? Ah, oui? L'histoire de Jésus? Impeccable, hein? Prends tout là. Une autre histoire? La naissance de Jésus. Ça, c'est l'histoire qui te plaît. Une autre histoire? Pâques? Ça tombe bien, hein? On en parle aujourd'hui. Oui? Noël? La naissance de Jésus? Faites une petite fixation là-dessus. Hein? Va falloir attendre un petit peu, hein? Une autre histoire? Le baptême de Jésus? Oui. Oui, c'est bien. Pourquoi pas? Oui? Il n'y a pas que Jésus comme personnage dans la Bible, hein? Il y a d'autres histoires. Moi, vous savez quelle était, à votre âge, quelle était mon histoire préférée dans la Bible? Il s'appelait Daniel. C'est bizarre. Quand ma mère voulait me raconter une histoire, elle me disait, quelle histoire tu veux que je te raconte? C'était Daniel dans la fosse aux lions. Parce que dans cette histoire, c'était moi, Daniel. C'était moi qui faisais face aux lions. Vous voyez? Mais depuis, j'ai changé. Toi, tu la connais, l'histoire de Daniel aussi? T'as un petit livre qui raconte cette histoire? Toi aussi? Alors, quelle autre histoire, alors? Non, on arrête là, hein. Vous êtes fatigués. Celle de Moïse. Voilà. Il y en a beaucoup autour de Moïse. Il y a beaucoup d'histoires autour de Moïse. Élie et Élisée, voilà. Ben, maintenant, ils sont partis. On va faire tous les personnages de la Bible. Donc, je vais vous raconter... pour moi, ce qui est aujourd'hui la plus belle histoire dans la Bible. L'histoire des histoires, on pourrait dire. Et cette histoire, elle commence par ces mots. Je vais vous montrer ce texte, si tu peux le donner dans Jean 20. Allô, allô, il y a quelqu'un? Le texte de Jean 20. Voilà. Le premier jour de la semaine, ça commence comme ça cette histoire, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient au tombeau dès le matin, alors qu'il faisait ou qu'il fait encore sombre, et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Marie-Madeleine a assisté à la mort de Jésus, elle était là à la croix. Elle a appris, elle savait que Jésus avait été mis dans un tombeau. Et donc le premier jour de la semaine, elle est allée voir au tombeau de Jésus, si Jésus était encore là. Il faisait sombre encore et elle a vu que la pierre avait été roulée, parce qu'on ne l'a pas fait ici, mais une fois que la personne qui était morte était mise dans le tombeau, on roulait une pierre devant le tombeau pour que personne ne puisse entrer. Et cette pierre, elle est arrivée et cette pierre était à côté. Elle avait été enlevée. Ce qui est intéressant dans ce que Jean nous dit, c'est qu'il parle du premier jour de la semaine. Vous savez quel est le premier jour de la semaine ? Mardi ? Lundi ? Ouais. Non, c'est dimanche. Non, c'est dimanche. La semaine de travail, c'est lundi peut-être. C'est dimanche le premier jour de la semaine. Pas possible. Qu'est-ce qu'ils vous apprennent à l'école ? Pas possible. Bon, écoutez, moi je vous dis que c'est le dimanche, d'accord ? Le premier jour de la semaine, c'est pas possible ça, c'est des rebelles. Alors ce qui est intéressant, c'est que Jean, il aurait pu dire autre chose. Au lieu de dire le premier jour de la semaine, il aurait pu dire, et peut-être même il aurait dû dire, le troisième jour après la mort de Jésus. Parce que c'était aussi le troisième jour après la mort de Jésus que Marie-Madeleine est allée au tombeau. Il aurait pu dire cela. Parce qu'à chaque fois que Jésus avait parlé à ses disciples de sa mort, il avait toujours dit, je vais mourir, il leur avait décrit comment, crucifié, rejeté, et le troisième jour, je ressusciterai. Voilà ce qu'il leur avait dit plusieurs fois avant sa mort. Et on aurait pu penser que Jean, racontant ce qui s'est passé donc, au moment de sa résurrection, ils disent le troisième jour après la mort de Jésus. Mais Jean n'a pas dit cela et Jean a choisi plutôt de parler du premier jour de la semaine. Ce premier jour de la semaine, pour Jean, ce n'est pas seulement le premier jour de la semaine. C'est le premier jour d'un nouveau monde. C'est le premier jour d'une nouvelle création. Et quand vous lisez cette histoire qui suit dans le chapitre 20, il est question d'un jardin. Et Jésus même va être pris pour un jardinier. Ouais. Marie va le prendre pour un jardinier. Elle ne va pas le reconnaître. Il était là devant, lui, devant elle, ressuscité. Elle ne va pas le reconnaître, elle va le prendre pour un jardinier. Et c'est la raison pour laquelle, notamment, un auteur, pour ceux qui connaissent G.K. Chesterton, un écrivain anglais, journaliste aussi, chrétien, va écrire ceci. Le troisième jour, dès l'aube, les amis du Christ vinrent au tombeau. Ils trouvèrent la pierre roulée et le tombeau vide. Ils comprirent chacun selon ses voies qu'il y avait eu un nouveau prodige, mais ne comprirent pas, même alors, que le monde était mort dans la nuit. Ce qu'ils avaient devant les yeux, c'était le premier jour d'une nouvelle création, avec des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Et Dieu, sous l'apparence d'un jardinier, se promenait une nouvelle fois dans le jardin, à la fraîcheur du, non du soir, mais de l'aube. Et vous voyez le parallèle qu'il fait, cet auteur anglais, il fait le parallèle entre ce qui s'est passé dans le jardin autour de ce tombeau, lorsque Marie-Madeleine est allée et qu'elle a vu Jésus, et ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, un autre jardin, au moment de la création. Il nous est dit que le soir, Dieu se promenait et parlait avec Adam et Ève. Il était en communion avec eux et c'était au début de la création. Et là, nous sommes comme au début d'une nouvelle création, d'une nouvelle ère, d'un nouveau monde. Celui qui a commencé le jour de la résurrection de Jésus. La grande question autour de la résurrection, c'est savoir si Jésus est vraiment ressuscité ou pas. Et pourquoi est-ce si important qu'il soit ressuscité? Vous savez pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si Jésus n'est pas ressuscité, ce qui s'est passé à la croix n'a aucune valeur. Jésus est mort pour nous, ça n'a plus de sens. À la croix, c'est simplement un homme qui a été injustement condamné. Et il est mort parce que des gens le haïssaient. Mais si Jésus est ressuscité, ça veut dire que tout ce qui s'est passé à la croix, que Jésus a pris notre place, alors ça, c'est effectivement la vérité. On pourrait dire que la résurrection par rapport à la croix, c'est un peu lorsque vous allez faire des courses. Vous aimez aller faire les courses dans les magasins? Ouais? Non? Oh, t'es bien un mec alors. Hein. T'es un peu comme moi. Vous aimez faire les courses? Vous allez souvent dans les supermarchés? Ouais. Vous aimez bien remplir le caddie? Ouais. C'est mieux quand c'est vous qui le faites, hein? Ouais, c'est mieux. C'est toi qui te mets dans le caddie? Non, il faut mettre des articles dans le caddie. Parce qu'à la caisse, quel prix tu vas donner? Hein? Eh ben oui, mais quand vous achetez des articles dans un magasin, vous allez à la caisse, vous payez, d'accord? Vous payez toujours, hein? Oui? Oui, votre maman a payé toujours, d'accord? C'est bien. Je vérifie, on ne sait jamais. Vous payez, et quand vous avez payé, qu'est-ce que la caissière vous donne? À l'argent, ouais, vous rendez, ouais, après. Un ticket. C'est pas mal un ticket quand même. J'en ai un là, parce que je fais toujours les courses aussi. Et donc ça, c'est un ticket. Vous voyez? Et pourquoi ce ticket, il est important? Ouais? Ah, c'est bien. Si ce que tu as acheté ne te plaît plus, tu pourras ramener. C'est bien, c'est pratique, c'est vrai, ça sert à ça. C'est important. Ça a dû t'arriver, hein? Oui? C'est ça. T'as raison. Pour que l'on croit qu'on a payé. Parce que ce qui peut arriver des fois, c'est à la sortie des caisses, là, dans la galerie marchande, il y a des agents de sécurité, des gens très costauds, là, qui viennent et qui peuvent vous arrêter avec votre caddie plein d'articles et qui peuvent vous dire, ben, madame, mademoiselle, monsieur, est-ce que vous pouvez me montrer votre ticket de caisse? Ou pire, s'il vient vers vous en disant, vous avez volé ce produit, cet article, est-ce que vous l'avez vraiment payé? Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Vous allez sortir, et vous avez intérêt de l'avoir à ce moment-là, le ticket. Parce que si vous ne l'avez pas, ça va mal se passer. Donc il ne faut pas le jeter. Il faut toujours le garder. Et vous le montrez à l'agent de sécurité, et vous avez la preuve que tout ce qu'il y a dans le caddie, parce que lui, il peut vérifier, tous les articles sont écrits, il y a la date d'achat, donc il peut vérifier que vous avez bien acheté ces articles vous appartiennent, et il vous dira, ben, mademoiselle, monsieur, ben, vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a pas de problème. Vous voyez comme le ticket est très important. C'est la preuve que vous avez acheté ce que vous avez dans votre panier ou dans votre caddie. Eh bien, la résurrection, c'est exactement la même chose. Si la résurrection s'est vraiment passée, c'est la preuve que ce que Jésus a fait à la croix s'est vraiment passé aussi. C'est pour ça que c'est important, la résurrection. Alors, est-ce que la résurrection a vraiment eu lieu? Oh, ça va, vous êtes convaincus, donc ça va être simple ce matin. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas convaincus que la résurrection a existé. Il y a beaucoup de gens. Les gens qui sont sceptiques, qui sont incrédules, qui disent non, la résurrection, mais un événement, ça n'arrive jamais. On aimerait bien que ça arrive. Quand ce sont nos proches qui partent, on aimerait bien qu'ils reviennent. Mais ça n'arrive pas. Et quand on parle de la résurrection de Jésus, vous avez beaucoup de gens qui ne croient pas dans la résurrection. Ils disent que ça n'a pas existé. Oui, ils doutent. Exactement, ils doutent, ils ne sont pas sûrs, ils voudraient être sûrs. Vous savez, c'est un peu Alors, je vais te donner la preuve, d'accord? T'attends 2 minutes, hein? Tu pars pas avant, hein? Et c'est un peu comme si demain matin, vos parents recevaient une lettre d'un notaire qui annonçait et qui disait à vos parents que votre maman, votre papa a un parent éloigné, qu'il ne connaissait même pas, qui vient de mourir et qui a une grande fortune, disons 10 millions d'euros. Oui, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Mais dans mon histoire, c'est facile. Je pourrais en mettre 20 millions si vous voulez, c'est pas un problème. Alors on dit 20 millions ? Allez, d'accord. 20 millions d'euros et qu'il vous invite à prendre rendez-vous chez le notaire pour recevoir cette somme, puisque ça fait partie de l'héritage de vos parents. Vous imaginez ce que vous allez pouvoir acheter avec ça. Alors certainement qu'il y a beaucoup de parents qui vont tout de suite sauter au plafond, qui vont être heureux, qui vont tout de suite téléphoner au notaire en disant, prends rendez-vous, on va vous voir tout de suite, le plus vite possible. Il y a beaucoup de gens qui vont croire tout de suite, mais il y en a d'autres, et peut-être que vos parents en feront partie. Ils diront, mais est-ce que c'est vrai? Vous imaginez une histoire comme ça? Est-ce que c'est pas une arnaque? Il y a tellement d'arnaques. Hein? Donc il y a certainement des parents qui diront, oh non, non, ça peut pas être vrai, ça c'est... Voilà, c'est un piège, c'est un faux, il faut faire attention, il y a beaucoup de gens qui font des arnaques comme ça, et certainement il y a beaucoup de parents qui diront, non, 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 c'est pas possible. Mais je parie quand même que même parmi les plus incrédules des parents, les plus sceptiques, à un moment donné, ils iront appeler le notaire. Non ? Ouais ? Même les plus sceptiques, là. Ils diront, on va quand même, ça coûte rien un coup de fil. On ne sait jamais. Si, on ne va pas louper quand même 20 millions d'euros, vous voyez. Si c'était vrai. Eh bien, avec la résurrection, c'est exactement la même chose. La résurrection, ce n'est pas 20 millions d'euros, c'est beaucoup plus que cela. C'est beaucoup plus important que ça. C'est plus que des milliards d'euros, exactement. C'est beaucoup plus important. Ça veut dire que si vraiment cette résurrection a eu lieu, il vaut mieux que je sache si c'est vrai ou pas. Il ne faut pas que je laisse ça en disant « Oh, tant pis, c'est pas grave, je ne vais pas vérifier, je n'ai pas envie d'en savoir plus. » Non, parce que si Jésus est vraiment ressuscité, ça veut dire que tout ce qu'il a fait avant, ben c'est vrai. Ça veut dire qu'il est vraiment le sauveur du monde, ça veut dire qu'il est vraiment celui qui a fait toute cette œuvre pour nous et qu'il peut tellement nous donner dans notre vie, tellement nous apporter dans notre vie. Donc, toute personne qui entend parler de cette histoire devrait dire, peut-être je n'y crois pas, peut-être je suis sceptique, mais j'aimerais bien quand même vérifier. Et je connais beaucoup de gens qui font comme ça. Hein. La démarche qu'ils font quand ils viennent entendre l'évangile, c'est dans cet esprit-là. Ils se disent, mais si c'était vrai. Alors, comment savoir si c'est vrai? Tiens, comment savoir? Ah ben, acheter une Bible, ben voilà. Ben voilà, il suffisait d'acheter une Bible. Donc, vous avez tous une Bible. Donc, si vous voulez savoir que c'est vrai, vous achetez une Bible. On va faire des affaires ce matin. Vous allez acheter une Bible et puis vous saurez que c'est vrai. Mais qu'est-ce qui nous dit dans la Bible que c'est vrai? Que ça s'est vraiment passé? La réponse, preuve, je dis preuve entre guillemets, pas une preuve scientifique bien sûr, c'est un élément en faveur, un indice, c'est Marie et Marie. Marie et Marie. Je ne me suis pas trompé, c'est vraiment deux fois Marie. C'est Marie une première fois et c'est Marie une deuxième fois. Marie, dans un premier temps, en tant que femme, c'est ce qu'on peut appeler, je dis ça pour les grands, une preuve objective. Quelque chose qui peut servir d'élément important pour confirmer que la résurrection a vraiment eu lieu. Et l'autre Marie, c'est le nom de Marie. Et là, c'est plutôt une preuve subjective, personnelle, quelque chose que l'on reçoit. Il y en a d'autres qu'on pourrait donner, mais on va s'arrêter uniquement sur ces deux-là, la preuve de Marie, la preuve objective, Marie en tant que femme, parce que il nous est dit dans ce texte, si on reprend le texte, que Marie est allée au tombeau, c'est l'autre texte, hein, c'est pas grave, le premier verset, que c'est Marie qui est allée au tombeau, la première. Et c'est elle qui va rencontrer Jésus, la première, Marie-Madeleine. Vous imaginez, pendant quelques heures, dans ce monde, il n'y avait qu'une seule personne qui savait que Jésus était ressuscité. Et cette personne, c'est cette femme Marie-Madeleine. Une femme d'abord. Quelque temps après, les premiers disciples, les premiers apôtres au IIe siècle, il y a un philosophe romain, Cels, qui va écrire un texte pour critiquer les chrétiens. Il était contre le christianisme et il va écrire un texte, un discours véritable, pour critiquer les chrétiens. Il va être très très dur contre les chrétiens. Et particulièrement, l'argument qu'il va utiliser pour dire que la résurrection n'a pas eu lieu, c'est justement le témoignage des femmes. Il va dire comment un esprit rationnel peut donner du crédit au témoignage de femmes hystériques. C'est pas moi qui le dis, hein, je fais une citation. Je n'oserais pas dire. C'est comme ça qu'il est considéré. À cette époque, du temps de Jésus et après, on pensait que les femmes, le témoignage des femmes n'était pas valable. Même dans un tribunal, on n'en voulait pas. Et là, cette histoire, elle raconte la résurrection de Jésus au travers d'abord du témoignage des femmes, pas seulement, mais d'abord. Et lui, cet homme, il était tellement contre les femmes qu'il s'est servi de cela pour dire, ben non, la résurrection, ce n'est pas possible, ça n'a pas pu avoir lieu parce que ce sont des femmes qui ont témoigné. C'est étonnant parce que 20 siècles plus tard, aujourd'hui, c'est ce même argument qui nous sert à démontrer que la résurrection a dû avoir lieu. Parce que si on pense que la résurrection a été inventée par les apôtres, on se dit, si les apôtres ont voulu inventer la résurrection, alors qu'elle n'a pas eu lieu, est-ce qu'ils auraient parlé des femmes qui témoignent et qui ont d'abord vu Jésus ressuscité? Certainement, ils ne l'auraient jamais fait, parce qu'ils se seraient dit, il y aura des gens comme Cels qui vont dire, mais non, ce n'est pas possible le témoignage des femmes. Donc ils n'auraient mis que des hommes, certainement, ils n'auraient jamais mis des femmes. Donc au fait, aujourd'hui, si ce sont des femmes qui témoignent, comme Marie, ça vient renforcer le fait ou l'idée que la résurrection a vraiment dû avoir lieu parce que ce sont vraiment des femmes comme Marie qui ont vu d'abord Jésus ressuscité. La deuxième, c'est Marie. Si on peut remettre cette diapo. Deuxième, c'est Marie. On va lire le texte qui vient à ce moment-là. Texte de Jean 20. Voilà. Après avoir dit cela, donc c'est Marie, elle se retourna, elle voit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle était en larmes, elle allait au tombeau, Jésus était mort, elle savait dans quelles circonstances il était mort, elle était très affligée. Et Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, oui, comme je vous le disais tout à l'heure, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le prendre. Jésus lui dit, Marie, Marie. Et là, il nous est dit qu'elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, ce qui signifie maître. Et Jésus lui dit, cesse de t'accrocher à moi. Parce que vous savez ce qui est arrivé, Dès qu'elle a réalisé que c'était Jésus, elle a voulu le prendre et s'accrocher à lui. Elle l'avait perdu, elle pensait qu'il était mort, et tout d'un coup il est là devant elle, elle n'a pas envie de le perdre à nouveau, donc elle s'accroche à lui. Et Jésus lui dit, cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Et là il lui dit une des paroles les plus extraordinaires de la Bible. Il lui dit, va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Pour moi, cette parole-là, c'est la parole la plus importante qu'on trouve dans la Bible. Quand Jésus dit à cette femme Marie, il l'appelle par son nom, ça veut dire qu'il la connaît déjà. Et elle entend son nom, ça veut dire qu'elle le reconnaît, parce qu'elle le connaît déjà, et ils sont déjà dans une rencontre personnelle. Ils sont dans une relation personnelle. Pour savoir si Jésus est vraiment vivant, on peut avoir des preuves objectives, comme celle que j'ai donnée tout à l'heure avec le témoignage des femmes. Mais le plus important, c'est d'avoir une expérience personnelle, une preuve subjective, parce qu'on est entré dans cette relation avec Christ lui-même. Vous savez, ce qu'il y a au centre de l'univers, est-ce que vous voulez savoir ce qu'il y a au centre de l'univers ? Le soleil ? C'est ton univers à toi, alors. Au centre de l'univers, de tout le cosmos, on peut dire qu'au centre de l'univers, il y a Dieu lui-même. C'est Dieu qui se trouve au centre de l'univers. Il est au-delà de l'univers même, mais il est là, le cœur même de cet univers. Il est au centre. Et au centre de l'univers, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Dieu. Et Dieu, c'est trois personnes. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ces trois êtres qui sont en relation permanente, dans une relation d'amour, de plénitude totale. Ils sont là dans cette relation, ils sont heureux d'être ensemble, ils sont satisfaits, ils n'ont rien besoin de plus pour être heureux. Et là, Jésus dit à ses disciples, maintenant, le jour de la résurrection, le premier jour de la semaine, le premier jour de ce monde nouveau, de cette nouvelle création, il leur dit, il dit à Marie, va dire à mes frères. À mes frères, imaginez, Jésus qui dit ça. Avant cela, Jésus avait dit à ses disciples qu'ils étaient ses serviteurs, ses disciples. Il avait dit aussi qu'ils étaient ses amis, qu'il les considérait comme ses amis, c'est déjà pas mal, être considéré comme ami de Dieu, c'est extraordinaire. Mais là, il va beaucoup plus loin, il dit, c'est non seulement, vous êtes non seulement mes serviteurs, mes disciples, mais vous, mes amis, mais vous êtes mes frères. Mes frères et mes sœurs, bien évidemment, c'est ce qu'il sous-entend à ce moment-là. Mes frères et mes sœurs. Il considère que nous faisons partie de sa famille. Qui c'est qui a des frères et des sœurs, là ? Vous avez tous, hein ? Tous des frères et des sœurs. Ça va, vous entendez bien ? Ça se passe bien ? Ouais ? Et des petites chamailleries, ouais, de temps en temps ? J'espère que ce n'est pas arrivé ce matin, quand même. Hein ? Mais c'est important d'avoir des frères et des sœurs. Vous êtes content d'en avoir. Vous partagez, vous êtes dans la même famille, vous avez le même nom, vous avez le même sang. Vous partagez beaucoup de choses ensemble et ça va durer comme ça toute votre vie. Vous aurez fait partie de cette famille avec des frères et des sœurs. C'est exactement ce que Jésus annonce ici à Marie. Il dit, maintenant tu vas leur dire à mes frères et à mes sœurs que tous ceux qui sont mes disciples, grâce à la résurrection, parce que je suis revenu à la vie, parce que j'ai fait cette œuvre à la croix pour prendre votre place, maintenant vous faites partie de ma famille. Maintenant la famille de Dieu, elle s'agrandit. Et on devient, on pourrait dire, les frères de sang de Jésus. Comme il y a des frères de sang dans votre famille, des frères et des sœurs de sang, nous on est des frères de sang de Christ. Le sang de Christ, bien sûr, celui qui a coulé sur cette croix, et nous sommes et nous faisons partie de sa famille. Et il nous donne de porter ainsi son nom, en fait. Ça veut dire une chose, c'est que si on fait cette expérience de la présence de Christ dans notre vie, maintenant, partout où nous allons aller, il sera avec nous, partout. Vous allez à l'école demain? Vous êtes contente? Pourquoi? C'est quand même bien Pâques. Hein. Ça pouvait être Pâques tous les jours. Vous allez retourner à l'école mardi alors? Ouais. Et vous aimez aller à l'école? Oui? Ouais, c'est vrai, encore un autre jour férié, il n'y a que ça. Non, toi, tu n'es pas d'accord? Non? Eh bien, si vous allez à l'école et que les choses ne se passent pas bien, Jésus, lui, sera toujours avec vous. C'est ce qu'il a voulu dire ici. Vous êtes mes frères. Et il faut que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, celui qui est mon Dieu et votre Dieu. Il dit, on fait partie de la même famille. Il est mon Père, dit Jésus, mais il est aussi votre Père. Il est mon Dieu, mais il est aussi votre Dieu. Ça veut dire que partout où nous allons, et là je parle au plus grand, peut-être au travail, pas lundi, mais demain, mais mardi, eh bien, il sera là. Ça peut être pour des chrétiens persécutés, mis en prison à cause de leur foi, eh bien, il sera là. Ça peut être sur un lit d'hôpital, mais il sera là. En fait, il sera toujours là. Comme il a été pour cet homme qui était un chrétien chinois, il y a quelques années, il y a eu en Chine ce qu'on appelle une révolution culturelle. Et beaucoup de chrétiens ont été mis en prison. Beaucoup de chrétiens ont été persécutés dans cette période-là. Et il y avait un chrétien qui était là dans cette prison. En général, il se méfiait tellement des chrétiens qu'il faisait en sorte qu'il y ait toujours un gardien à côté des chrétiens, qu'il ne soit jamais seul. Mais ce chrétien-là, il y avait une exception pour lui. Dans la journée, quand il allait travailler, il avait une tâche à remplir dans chaque jour. Et pendant qu'il faisait ce travail, pendant plusieurs heures, il était tout seul, tout seul. Il n'avait pas de gardien avec lui. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il allait nettoyer les toilettes des prisonniers dans la prison. Et les toilettes étaient tellement sales, il y avait une telle mauvaise odeur que les gardiens ne voulaient pas entrer dans les toilettes. Donc ils le laissaient tranquille. Il était là en permanence, seul dans ses toilettes. Et il raconte dans son témoignage que chaque jour, quand il allait dans ce lieu qui était sale, nauséabond, il chantait toujours le même cantique. Il chantait toujours le même cantique. Et ce cantique, vous allez l'entendre maintenant. Ça va venir. On va la voir. Dans le jardin où j'aime entrer, à l'heure douce de l'aurore, je me rends seul pour rencontrer celui que mon âme adore. Peut-être le refrain, certains le connaissent. Il marche avec moi. Sauveur, mon roi. En anglais, il est dit, il marche avec moi, il parle avec moi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien. Il est tout mon bien. Mon salut, mon divin appui. On va arrêter là. On va prier ensemble. Seigneur, tu nous fais cette promesse qu'à partir de ce jour où tu es ressuscité, c'est Pâques maintenant qui commande toutes choses. Grâce à ta résurrection, nous faisons partie de ta famille. Grâce à cette mort sur la croix, où tu as pris notre place, nous pouvons aujourd'hui faire partie de ta famille et tu peux nous considérer comme tes frères et tes sœurs. Et nous partageons ensemble, Seigneur, le même Père, le même Dieu. Alors, partout où nous serons, que ce soit à l'école, dans une prison, dans un hôpital, sur un lieu de travail, tu seras avec nous. Tu seras toujours avec nous, Seigneur. Et nous pourrons chanter comme ce chrétien chinois tous les jours. Tous les jours, tu marches avec moi, tu me parles et tu me dis que je suis à toi. Nous voulons nous souvenir de cela maintenant. Et au moment où nous allons partager ce repas de Sainte-Cène, nous voulons mesurer un peu plus l'immensité de l'œuvre que tu as accomplie pour chacun d'entre nous. Parce que tu n'as pas seulement été la victime de la haine des hommes, tu as toi-même voulu donner ta vie afin de payer pour notre condamnation. Et par ta résurrection, tu viens certifier, tu viens démontrer que tout ce que tu as fait s'est réellement accompli et que tu es vraiment devenu notre sauveur. Alors merci Seigneur d'être considéré ce matin non seulement comme tes serviteurs, comme tes disciples, comme tes amis, mais aussi comme tes frères et tes sœurs. Nous te bénissons pour cela Seigneur et nous voulons célébrer cela ensemble maintenant en partageant ce repas de Sainte-Cène. Et j'invite tous ceux qui vont prendre ce repas maintenant à se lever. Et je vais demander à ceux qui vont distribuer ce repas de s'approcher devant.